Ben, moi je m'appelle Romuald, j'ai 25 ans, je suis vidéaste, donc je m'intéresse beaucoup au cinéma, voilà. Et mon film préféré c'est Retour vers le futur, de Robert Zemeckis, si je dis pas de bêtises. Ce film-là, il m'a vraiment marqué, parce que bah, déjà c'est un peu mon enfance, il passait tous les Noëls à la télé, Et ce qui est fou avec ce film, ce que j'ai kiffé, c'est qu'à chaque Noël, quand je rentrais de vacances, et ben c'était une redécouverte à chaque fois, parce que je grandissais. Tu vois, j'étais jeune, donc je comprenais pas tout. Je grandissais et à chaque fois, je redécouvrais. Et le synopsis est fou, en fait. Le synopsis est fou. Tout ce concept-là de retour vers le futur par rapport au voyage dans le temps et tout, C'est fou.
Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, le podcast qui parle du 7e art en thème mensuel. Au mois de mai, on parle de société et de cinéma de société. Et justement, avec nos trois premières émissions, on a pu aborder différents thèmes comme le travail, notamment la semaine dernière avec un entrepreneur, Manuel Carouet. Cette semaine, trois invités se succèdent dans l'émission pour nous parler de très jolis projets. Une comédie musicale dans la deuxième partie qui prend le thème du hip-hop tourné à Marseille en compagnie donc de Kamel Saleh, son réalisateur, le réalisateur des clips du groupe IAM, notamment Né sous la même étoile par exemple et d'autres chefs-d'œuvre, et Emma Don qui est avec lui, sa co-autrice, qui nous parleront tous les deux de ce projet très ambitieux soutenu par la ville de Marseille. Première partie, Elliot Wescar est également notre invité, lui qui a fondé une école en ligne en tant que cinéaste pour former à partir de, tenez-vous bien, 1 euro par mois, toutes les personnes souhaitant découvrir le cinéma en amateur confirmé ou pourquoi pas en professionnel en devenir. Voici nos invités cette semaine pour parler d'un cinéma qui s'ouvre vers la société, qui s'ouvre vers les rues et qui se démocratise pour le bonheur de tous. Pour commencer l'émission, c'est la baby critique de la semaine. On va parler de voitures qui vont très très vite. On parle de Fast X et juste après, c'est parti avec nos invités pour la première.
Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille.
Qu'est-ce qui te trotte dans la tête?
Les paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime.
Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie.
Boum! Bonjour, après différentes marveleries et autres productions américaines, j'ai décidé d'emmener mes enfants voir un film français, pour une fois réalisé par un Français. Et on s'est retrouvé dans la salle de cinéma à voir le métrage Fast 10, les gars. Bonjour Jules, bonjour Gabin.
Bonjour.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous en avez pensé de Fast and Furious, 10e épisode de la saga?
C'était trop bien, plein, même un peu trop d'action, comme tous les autres mais avec un peu plus d'action.
Ça pète. Jules, tu as aimé?
Ouais, il y a beaucoup d'explosions, ça exagère un peu.
Ça exagère un peu.
Ouais. Et aussi, je trouve que, tu vois, au début, j'aime bien la bombe là.
Dans le Rhum? Ouais, la bombe qui roule?
Ouais.
Ça t'a fait rire? C'était pas trop long, 2h40 quand même?
Non.
T'as pas vu le temps passer?
Non.
Gabin, un dernier mot?
Au revoir.
Tu conseilles? À partir de quel âge?
J'irais peut-être 9.
À partir de 9 ans, super, très bien. Donc Jules qui a 4 ans, qui a 5 ans, tu as adoré?
Oui.
À bientôt Jules.
À bientôt.
À bientôt.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Graffiti cinéma.
Ici. Voilà, donc Elliot Wescar, alors je précise bien nom, prénom Elliot, parce qu'on s'est déjà rencontré, on a le plaisir aujourd'hui de t'avoir avec Juliette, parce que on est très content de te rencontrer, donc nous parler de ton projet, comme je dis en introduction, l'industrie, qui est pour le coup un projet très très ambitieux, mais tout aussi intéressant, parce que c'est une école de cinéma en ligne, et on a justement ici une démarche qui nous avait frappé, qui nous avait vraiment 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 intéressé, c'était que tu avais décidé de mettre des cours de cinéma en ligne, pour ceux qui veulent apprendre le cinéma, pour 1€ par mois, c'est-à-dire un prix absolument dérisoire, puisque pour une année de cours en ligne de cinéma, ça coûte moins qu'un mois d'abonnement Netflix. Donc on va tout simplement déjà évidemment présenter ton parcours et on va commencer par présenter cette école en ligne, parce que on peut le dire, donc toi tu es cinéaste et tu réalises des cours, tu as participé à des longs métrages, tu as vraiment une expérience très très poussée dans le domaine du cinéma, et tu as décidé vraiment de te lancer dans cette idée de transmettre le cinéma tel que tu l'as appris.
Ouais, tout à fait. Ouais, moi j'ai appris d'abord sur le terrain pendant 7 ans comme ça. Je commençais avec des amis du théâtre, et après petit à petit je me suis mis dans l'industrie en Suisse, mais je suis sur Genève en Suisse, et après je suis allé à Barcelone, et là j'ai rencontré une vraie industrie quoi, plus grande, avec des gens un peu plus pro quoi, dans lequel je me suis formé, et en fait j'ai retranscrit tout ce que j'ai appris, un peu tous les conseils et toute la théorie que j'ai appris dans l'industrie quoi.
Alors c'est un projet très vaste, hein, parce que bon, j'ai eu l'occasion d'aller dans des facs du cinéma, de croiser des cours, et on est d'autres dans l'équipe à avoir lu beaucoup de bouquins de cinéma. C'est vrai que là on pourrait se dire, mais un projet comme celui-ci à 1€, on va avoir des fiches de 3 lignes, on va avoir des choses sans contenu très poussé. Mais non, on peut le dire, hein, moi j'ai eu l'occasion de faire la première partie où tu présentes la pré-production, les vidéos introductives et toutes les fiches sur le scénario qui explore quelqu'un d'assez connu comme Joseph Campbell, qui est à l'origine des grands films hollywoodiens depuis plus de 30 ans. Il y a vraiment un contenu très poussé, et puis surtout tu vas l'enrichir d'anecdotes de tournage, mais aussi du côté concret du tournage. Il y a du théorique, et en plus il y a ce côté concret qui vient faire la différence dans la façon de produire et pré-produire un film.
C'est un peu le problème en ligne quoi, je trouve que ce qui manque c'est tout le côté pratique quoi, forcément c'est très difficile de le mettre en place quand tu fais une école, donc j'essaie de me contenter, j'essaie de proposer des exercices à chaque fois, tu verras c'est encore plus quand tu vas plus en avant dans la formation, il y en a beaucoup plus quoi, et ouais, donc c'est un mélange de théorie et de pratique, mais surtout de théorie.
Alors Juliette, hein, n'hésite pas d'ailleurs, si tu veux poser une question, tu signales, mais c'est vrai que moi, pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, j'avais découvert au départ ton initiative qui était le Ciné Club, qui était très intéressant parce qu'il y avait une newsletter où tu analysais dans une newsletter un grand classique du cinéma qu'on pouvait retrouver en ligne sur Internet, sur des sites évidemment où le film était libre d'accès évidemment, et après ce Ciné Club, quand il y avait une communauté qui s'est créée, il y a l'industrie qui a pris le relais, et j'ai été assez tout de suite curieux, parce que je me dis, quelqu'un qui va pousser des newsletters au point vraiment de vouloir transmettre le cinéma et de faire des études théoriques de ces films-là, de ces classiques, voilà, forcément il y a une passion derrière, et il n'y a pas seulement l'idée de faire un modèle économique, on va y en parler, sur une école en ligne. C'est vrai que là en plus on rappelle les tarifs, hein, 1€ par mois pour découvrir le cinéma, pour faire une très très belle introduction au cinéma, enfin, je veux dire, c'est inimaginable en fait une école comme celle-ci aujourd'hui.
L'idée, c'était vraiment de... En fait, ça vient... J'avais envie de faire quelque chose de bien, j'avais envie de faire un vrai projet dont je peux être fier sur le long terme, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait... je pense que ça met assez tout le monde d'accord, quoi. Autant les débutants que même, il y a beaucoup de pros, comme je te disais avant. Et c'est étonnant, quoi. Donc, moi, j'avais envie de faire quelque chose qui est hyper généreux. Ces cours, ils sont déjà faits, hein. Je les ai faits, ça fait 7 ans que j'en fais. Je continue encore tous les jours à en faire plein. Donc, c'est un boulot de fou, mais je trouve agréable de pouvoir rencontrer des gens, que ce soit aussi accessible, en fait. Moi, parfois, je vais faire un barbecue ou quoi, et les gens, ils s'inscrivent devant moi, enfin, sans que je les pousse, rien du tout. C'est un mélange d'intérêt et de soutien. Donc, c'est chouette.
Bah, on parlera des liens entre l'économie du barbecue et du cinéma, mais ça, c'est un autre débat. Alors, Juliette, peut-être que tu as déjà des questions pour Elliot, éventuellement.
Alors, j'avoue que je suis totalement spectatrice parce que j'avoue que je suis très admirative du projet. Je trouve ça vraiment intéressant et justement par cette accessibilité. Et puis, bah, c'est vrai que moi qui suis une totale néophyte hein, au niveau technique, on a cette impression que les passionnés en fait qui arrivent et c'est des autodidactes. C'est pas forcément dès qu'on fait une super grande école. Et on n'a pas l'impression d'ailleurs qu'il y ait deux très grandes écoles. De tout ce qui est métier du cinéma, donc ouais, je suis très admirative.
Cool, merci beaucoup, ça fait plaisir. ouais, c'est vraiment dédié aussi aux gens d'ailleurs qui sont pas forcément. C'est marrant parce que moi j'ai des collègues ou quoi qui s'intéressent pas plus que ça au scénario ou au son, mais qui viennent parce qu'ils s'intéresseront à autre chose, à l'histoire du cinéma, je sais pas. Plein d'autres domaines, donc c'est vrai que c'est assez vaste les possibilités.
Alors, pour répondre justement à l'interrogation de Juliette, pour ce qui est de la France, on peut le dire, il y a deux grandes écoles publiques, hein, il y a l'école Louis Dumière à Lyon et puis la FEMIS sur Paris, qui sont sur concours et qui évidemment, c'est un concours d'entrée, donc les places sont très chères et ce sont les seules. Après, évidemment, vous avez des écoles privées et c'est là où l'initiative d'Eliott est évidemment très très importante, c'est que ces écoles privées, elles ont un coût et un coût relativement important. La plupart du temps et c'est vrai aussi qu'on peut rappeler que le cinéma c'est quand même une passion souvent qui coûte beaucoup d'argent mais c'est une passion en tout cas qui est entraînante et là pour le coup qui peut même encourager des vocations qui parfois étaient mises un peu sous le drap faute de moyens de pouvoir apprendre la théorie. Elliot, je sais pas, je voulais te demander si tu avais déjà eu des retours de personnes qui s'étaient inscrites à l'industrie qui eux n'avaient pas pu faire, je dirais, le parcours traditionnel de ce qu'on connaît en France, à savoir des concours d'entrée des écoles publiques comme je disais, ou tout simplement qui n'avaient pas les moyens d'acheter du matériel ou de faire du cinéma et qui sont venus s'inscrire à l'industrie.
Ouais, bah y a un mélange, il y en a qui sont déjà formés, il y en a beaucoup qui sont en études en fait dans des écoles de cinéma à différents niveaux, qui prennent ça un peu en complément comme un truc en plus, comme un livre qu'on pourrait acheter ou une bibliothèque. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont, enfin on n'est pas énorme hein, on est une petite centaine pour l'instant. Je trouvais justement un peu absurde cette histoire de... Enfin, moi, j'ai fait plusieurs concours, hein, j'ai été refusé à plusieurs, j'ai été accepté à plusieurs aussi. Et c'est vrai que je trouvais... Et finalement, après avoir fini les écoles et tout, je trouvais ça assez... Enfin, vraiment, les informations que je retrouve après coup, après des années, en regardant un peu en arrière, c'est vraiment ce que je propose là, dans cette école, par exemple. Et pas grand-chose de plus. Donc oui, tu peux rencontrer des gens, oui, t'es dans le terrain, oui, t'es peut-être plus investi, quoi. Parce que ça fait partie de toute ta vie, quoi. Ça prend... Tu te lèves pour ça, quoi. Et tu te couches pour ça, en pensant à ça. Mais ouais, il y a pas mal de gens, ouais, du coup, qui, ouais, j'ai plein de gens qui, pas forcément, qui n'ont pas les moyens, mais qui saisissent l'occasion alors qu'ils n'auraient pas fait du tout une école avant de cinéma.
Alors justement là on relaye une question de Thomas qui est importante aussi, on l'a dit, tu avais beaucoup de contenu avant parce que toi c'est le contenu de tes propres études que tu as réactualisé, mais c'est vrai qu'on a une question, c'est comment on peut arriver assez rapidement en ligne, est-ce que tu as des contenus aussi variés, aussi fournis, parce que là on peut le dire à nos auditeurs, ça va donc de la pré-production au scénario en passant par la production jusqu'à la post-production, donc il y a vraiment un spectre très très vaste de ce qu'on peut apprendre, et ce qui est aussi important de le dire à nos auditeurs c'est que ça fonctionne du court-métrage jusqu'au long métrage. Il y a des recettes pour produire des films de tout type, tel qu'on le souhaite, qu'on soit amateur confirmé, passionné, ou même quelqu'un qui veut se professionnaliser dans tous les métiers du cinéma. Donc voilà, la question un peu vaste, donc je rappelle, c'est voilà, comment tu peux arriver à avoir un contenu aussi varié, aussi fourni, en le réactualisant. On imagine la tonne de travail que c'est, et pourtant les journées pour toi font pas 36 heures.
presque. Mais j'ai fait, si tu veux, j'ai commencé une après l'autre, quoi. Donc moi, à la base, je fais des études de 4 ans en scénario, donc ça je suis bien calé là-dessus, donc j'ai commencé je crois par ça, voilà, mettons que je fais plusieurs mois, je bosse sur ça, après je bosse plusieurs mois sur l'étalonnage, après tout à coup j'ai envie de réfléchir sur la distribution, et au bout d'un moment, au bout de 7 ans, voilà, j'ai 23 sujets que j'ai dépeints et que j'ai pu travailler, quoi. Et le but c'est vraiment d'en avoir plus, après de me lancer aussi non seulement à apporter un peu les innovations, les nouvelles choses qu'on découvre un peu au cinéma, les nouvelles techniques, les nouvelles choses qu'on entend, parce qu'on est, moi je suis constamment en train de me former tous les jours, j'apprends plein de trucs, et puis l'idée ça serait petit à petit d'ajouter ça, de voir s'il y a les gens que ça intéresse, ce qui les intéresse, et d'ajouter, mais on va dire que c'est surtout au fait avec le temps, à la longue, j'ai beaucoup de beaucoup de sujets, quoi.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on le disait, c'est assez vaste. Tu mets en plus à jour assez régulièrement ces fiches-là. Alors, comment tu le fais? Parce qu'on peut, le dire, ton quotidien, donc, c'est que tu es cinéaste, tu es scénariste, tu es monteur, tu as vraiment plusieurs casquettes dans le domaine du cinéma, et tu es souvent sur des tournages. Donc, moi, là, c'est vrai que c'est une question aussi que nous relaie Thomas, c'est comment tu mets à jour, mais je dirais comment tu trouves le temps de le faire entre les tournages. Parce que là, on peut le dire, justement, tu étais souvent entre plusieurs tournages. On imagine à quel point il faut cloisonner dans ton esprit pour arriver à mener tous ces projets, et ce qui est d'autant plus admirable de pouvoir le faire dans ces conditions-là.
Ouais, moi je tourne quasiment tous les jours, ou bien je fais du montage ou des trucs, mais en général je me lève tous les jours vers 6h, à 7h je commence le boulot, jusqu'à environ 17-18, donc je vais faire des tournages ou du montage, je sais quoi, mais pas pour moi en tout cas, pour les autres. Et ensuite je vais rentrer jusqu'à minuit, 1h, je vais bosser là-dessus, créer des trucs. Et ça je fais depuis des années, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, j'ai super mal au dos, donc je peux pas dormir très longtemps. Et avec le temps ça m'a habitué, et puis du coup moi je suis un peu un fou du boulot, et puis c'est pas vraiment du boulot quand je réfléchis, quand je fais ça c'est vraiment une des choses les plus agréables que je fais, que j'ai le plus de plaisir à partager. J'ai toujours envie de, dès que je dis c'est pas assez grand, c'est pas assez généreux, il manque un truc, bah j'y reviens, enfin tu vois, c'est une sorte de perfectionnisme étrange. Passionné.
Tu fais vraiment, tu fais tout ça tout seul. T'as pas du tout de personne qui t'aide pour justement ajouter du contenu. Parce que c'est du boulot quand même, quoi.
Ouais, c'est du boulot. Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir des gens, mais j'ai pas l'envie, j'ai pas les possibilités non plus. Donc je fais tout seul. Après, ouais, j'aimerais bien à terme trouver quelqu'un rien que pour la communication, tu vois, parce que là le plus dur il est fait, entre guillemets, quoi. Et du coup là c'est vrai que maintenant tout ce qui est communication c'est un boulot à part entière. Ouais. C'est parfois je viens et j'essaye de, j'en sais rien, de parler justement à des festivals ou à envoyer des mails aux gens qui gèrent des Harry, Red et tout ça, pour des sponsors ou quoi. Et c'est vrai que ça me prend, le temps passe, j'ai rien fait du tout, quoi. Et ouais, ça bon, après je suis pas pressé, donc ça c'est aussi quelque chose d'important à prendre en compte. J'ai pas un objectif de résultat du tout, je veux juste que ce soit partagé un maximum, parce que je pense vraiment que ça peut être utile.
C'est vrai en tout cas que l'initiative elle donne envie d'être relayée. Est-ce que justement, voilà, c'est une question que je relaye de Thomas, on en parlait un peu en off juste avant de préparer l'émission, c'est que dans ta démarche, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, c'est des choses qui ont été lancées par des écoles comme Courtrajmé, d'où Ladjli est originaire, l'idée qu'il y a des parcours qui sont possibles. Alors, on parlait des écoles tout à l'heure, on n'est pas contre évidemment ces écoles et ces concours, bien au contraire, mais l'idée qu'il y a d'autres moyens d'accéder et de pouvoir faire du cinéma, ce qui est très intéressant, parce que des réals comme Romain Gavras par exemple, ils sortent justement de ces filières là et on sait aujourd'hui qu'ils font des grands films pour Netflix ou des films en salle. Est-ce que le déclencheur pour toi c'est de voir qu'en France et dans la francophonie il y avait des écoles populaires comme ça qui se créaient à droite à gauche?
Si tu veux, les écoles c'est assez nouveau, hein, les écoles de cinéma, c'est pas si vieux. En fait, la plupart des gens, des vieux de la veille, un peu des tournages, ils ont pas fait d'école, ils ont appris sur le terrain. Et c'est pour ça aussi que c'est une industrie qui s'est développée sans école. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de présenter un diplôme quand on veut bosser dans une production, dans un film. Et du coup, donc il y a déjà ça. C'est pas, c'est tout nouveau un peu qu'il faille faire des écoles. Et ouais, je pense vraiment que ça peut s'apprendre en dehors des écoles, et qu'il faut, parce que c'est infini, t'as jamais vu tous les films, t'as jamais compris toutes les idées d'un cinéaste, et il y en a des milliers de bons. Donc ouais, c'est, à mon avis, c'est très important d'avoir des alternatives comme ça, et je sais pas si j'ai dit, mais ouais, ça vient vraiment d'une frustration justement que je pense est hyper partagée, quoi. C'est des gens qui dépensent, moi j'ai dépensé 40 000 euros pour m'inscrire à l'école de cinéma de Barcelone, et c'est vrai que c'était mon argent, quoi, que j'avais travaillé à côté. Et après, d'un coup, il n'y a plus rien à part ça. Donc, t'investis dans des informations, finalement. Et, Et voilà, donc moi, je trouvais un joli prix pour l'information. C'était un prix symbolique, presque gratuit.
Oui, donc, oui, on le disait, 1 euro, oui, c'est vraiment le symbolique. Et c'est, on le dit, bah, c'est bien en même temps de mettre du concret sur le coût d'une formation. On le dit, hein, le cinéma, ce sont des études qui coûtent cher. C'est une passion qui prend toute une vie. Et puis, il y a aussi une passion très exigeante en temps, puisqu'on le dit, hein, justement, voilà, on voit à quel point toi-même, dans tes journées, ça te prend du temps. Après, évidemment, la passion, une fois que ça devient un travail, on n'a plus la sensation de travailler, comme disait le philosophe, mais les journées sont pas plus longues pour toi que pour les autres. Alors est-ce qu'on peut, parce que c'est vrai que je relais aussi une question de Thomas, qui trouve le concept très moderne dans le sens où on est connecté, on peut directement faire une formation et s'inscrire à l'industrie via son téléphone et que ça peut aussi parler aux générations Z qui sont souvent des cibles pour lesquelles il y a beaucoup de théoriciens du cinéma qui s'inquiètent. Alors on peut citer Jean-Baptiste Rey, puisque c'est pas forcément un mal de s'inquiéter de la cinéphilie des générations Z, les 15-25, on va dire, pour compter large. Est-ce qu'il y a aussi l'idée, en créant une école en ligne, d'aller toucher ces publics-là, ou est-ce que tu en as déjà qui se sont inscrits à l'industrie dans les premiers?
Oui, il y en a beaucoup. La plupart sont assez jeunes. Je pense que la majorité, d'ailleurs, est très jeune. Et c'est aussi l'idée, quoi. Après, oui, il y aura des vieux de la vieille, mais...
C'est pour moi, ça.
il y en a des bien plus vieux. c'est des vrais vieux de la vieille.
Mais c'est vrai que pour ces jeunes-là, on imagine à quel point le concept peut être parlant, en fait, directement.
Ouais. L'idée, c'est pour ça, c'est une des choses qui est hyper logique, c'est que quand t'es étudiant, t'as pas forcément, enfin, tu dois avoir l'aval de tes parents, tu dois sortir l'argent quelque part. Et comme tu disais, le cinéma, c'est ultra cher, tout est mesurément cher. Et c'est du coup, c'est hyper logique pour moi. C'est un projet, c'est un pari, quoi. Ça va pas forcément m'apporter d'argent ou quoi, au contraire. Mais par contre, ça me donne une vraie mission, quoi, une vraie mission de vie. Et ça, c'est ultra agréable, quoi.
Justement, comme on parle connectivité et tout ça, est-ce que les élèves ont enfin, est-ce que ça crée une communauté? Est-ce qu'il y a, ils peuvent avoir des liens entre eux, justement, pour partager bah, sur la formation déjà, et puis bah, sur le reste pour enrichir aussi bah, ton contenu là, éventuellement?
Oui, j'ai mis une, il y a un moyen de d'avoir une communauté en ligne. Dans lesquels les gens peuvent échanger. Je veux aussi peut-être t'y proposer plein de propositions de petits jobs ou même de grands jobs, des opportunités quoi, des cinématographiques. Les gens peuvent poser leurs questions et l'idée, ce serait ouais, d'encourager ça pour que les gens puissent communiquer et se retrouver même par région, je sais pas exactement comment faire ça. Et même par la suite, j'aimerais bien, ça serait vraiment, je pense que le plus intéressant, ce serait qu'on se retrouve assez... régulièrement parce que voilà bah, j'ai un petit agenda mais une fois par an tu vois qu'on se retrouve tous et qu'on puisse je sais pas se retrouver sur un plateau essayer du matos et puis voilà se rencontrer avoir une connexion un peu plus humaine parce que pour moi c'est un vrai problème de tout ce qui est en ligne et que j'essaye de contourner ouais.
C'est... Donc peut-être que en gagnant de la notoriété, tu pourrais t'associer avec je sais pas des boîtes de prod et tout ça qui pourraient justement accueillir des élèves dans leurs locaux pour leur faire comme tu disais essayer du matériel et tout ça quoi.
Ouais tout à fait. Moi ouais, j'ai déjà un plateau mais c'est à Genève donc et la plupart des gens viennent de France, ouais de la région parisienne. Mais ouais, à Genève, j'aurais une possibilité déjà. Et puis, effectivement, le but, c'est... Je pense que ça peut aller assez vite, selon quoi. Mais si j'ai du temps pour faire justement tout ça, quoi, qui prend un temps hallucinant.
Alors, c'est vrai qu'on le dit, c'est ce qui nous a marqué. Et puis, tu le dis toi-même dans tes newsletters, c'est que souvent, tu as des gens, ils te disent « Mais c'est pas possible, ça peut pas exister. » Et c'est très intéressant, justement, que tu aies ces retours-là, parce qu'on rappelle hein, les tarifs. Donc, ça vous coûte 12 euros à l'année, c'est 1 euro par mois pour accéder à une base de données où vous avez énormément de fiches dans toutes les étapes clés de réalisation d'un film, de la pré-prod donc jusqu'à la post-production, pour obtenir des fiches et des vidéos, des exercices très poussés. Et également, quand tu montres des exercices en ligne sur l'industrie, bah c'est toi directement qui reçois les mails, donc tu peux échanger avec les personnes qui en font partie. On voit à quel point, pour le coup, beaucoup de personnes, et pour être franc, au début, moi je me dis, mais c'est dingue ça, je trouve ça. Je savais que c'était vrai, que c'était concret, moi, quand j'ai eu l'occasion de m'inscrire, parce que j'avais eu l'occasion de suivre le Ciné Club, comme on en parlait tout à l'heure. Mais à un moment donné, je me dis, mais c'est incroyable de lancer ça aujourd'hui. Comment tu gères ces retours-là où les gens te disent, mais c'est une belle folie, entre guillemets, pour utiliser une petite expression d'avoir un projet comme celui-ci où le modèle économique, il est secondaire, on a vraiment envie de transmettre.
Ouais, non mais c'est assez compliqué, je sais pas trop quoi leur dire d'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'envoient des messages et qui me disent ça sent l'arnaque, je sais pas quoi. Et moi en général je leur réponds, enfin toujours, pour l'instant j'ai répondu et je leur dis je sais pas quoi te dire, je peux te faire rentrer 3 jours gratuitement dans le truc si t'as envie, je peux te montrer, je peux filmer l'écran, le fait que ce soit vrai, mais c'est vrai que c'est je comprends, c'est logique, c'est internet, ça peut faire peur, etc. Mais c'est vrai que pour moi c'est un défi assez absurde d'essayer de convaincre quelqu'un que quelque chose sur lequel je passe toute la journée existe. Oui, c'est un challenge étrange, quoi. Mais que je pense j'y arrive petit à petit, ouais, avec justement, j'aimerais bien avoir des retours des gens, sur des choses, quoi. Il y a plusieurs choses qui peuvent augmenter ça. Des sponsors connus, la presse, machin.
C'est vrai que là, c'est ce qu'on a envie, et nous-mêmes, à notre échelle, on parlait parce qu'on a des connexions avec le Festival Orléanais et on a très envie de tisser des liens. Ce qu'on peut souhaiter à l'industrie, évidemment, c'est tout simplement ça, quoi. C'est d'avoir un assentiment, je dirais, de quelqu'un qui va dire « Ok, ne vous inquiétez pas ». Et ça paraît quand même assez improbable, parce que nous-mêmes, on est là et on est très heureux de relayer déjà cette initiative-là, parce que on a envie vraiment de la recommander. Je pense que là, pour le coup, les premiers retours que tu as, c'est un très bon bouche à oreille de ceux qui sont venus s'inscrire. Je pense pas que tu aies eu des inscriptions encore, a priori.
Non, aucune. Mais non, mais ça, c'est des... Je pense que les gens peuvent rester... dans l'idée à vie, quoi. Oui. Après, je pense que concrètement, ça se fera pas comme ça, parce qu'il y aura de plus en plus de gens. Mais non, non, les gens sont hyper contents, ils hallucinent. Ouais, c'est plus une question de wow. C'est plus un wow, quoi, comme retour. C'est marrant.
Ouais. C'est la première réaction qu'on a souvent. Et même moi, quand j'en parlais oralement à des amis, c'était pareil, c'était wow, mais comment ça peut exister? Alors, cette parenthèse à part, moi, je voulais te demander, du coup, comment tu voyais l'avenir? Est-ce que tu voudrais mettre en place des auteurs qui, par l'industrie, arrivent à te sortir des courts-métrages, font des festivals? Je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça risque d'arriver quand même, des personnes qui vont faire des festivals en ayant fait tes cours.
Ouais, c'est vrai. Ben, j'espère, oui. Il y en a déjà. Hein, parce qu'il y a déjà des gens qui ont gagné des prix, qui ont fait des vidéos, machin. C'est vraiment chouette. Il y en a qui a gagné 54... Enfin, qui a reçu 54 sélections. C'est hallucinant. Grâce à un truc sur la distribution, surtout grâce à son talent, mais le fait que je lui ai expliqué comment faire des petites astuces par-ci par-là, ça, lui il était super content. Mais ouais, donc l'avenir, moi je le vois et je vais vraiment essayer de le faire grandir. Et l'ambition, ce serait déjà en termes de grandeur, c'est la plus grande du monde francophone. Et l'idée, après, ce serait vraiment de la faire une grandeur, mais populaire, quoi, que ce soit qu'il y ait du monde, quoi, que les gens d'élargir le public, puis d'élargir aussi le catalogue, quoi. Enfin, là, c'est déjà immense, mais le but, c'est... Moi, je peux aller extrêmement vite. Moi, en un an, je peux en faire presque 1000 de plus. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais bien 300, quoi. Donc, c'est...
Ah vache, oui, c'est impressionnant, oui.
J'essaie de faire une vidéo par jour, comme ça. Mais c'est... Et puis, ouais, l'idée, ouais, ça serait magnifique si... Enfin, moi, c'est vrai qu'une cible, moi, ce que j'aime faire personnellement, c'est je fais un cinéma très d'auteur qui n'est pas pour ambition première un succès commercial, mais plus une recherche expérimentale du cinéma. Et c'est vrai que je pense que ça peut toucher ce genre de personnes qui ont des envies purement du 7e art, quoi, au sens de l'art, quoi, vraiment.
C'est vrai qu'en ouverture, peut-être dans une question plus philosophique, je dirais, on s'aperçoit que les autres formes d'expression, de l'écriture jusqu'à la peinture, ont des amateurs éclairés jusqu'à des professionnels, et que c'est un moyen d'expression, mais aussi un moyen de, tout simplement de combattre ses névroses et de vivre en étant heureux sans forcément être professionnel. Mais très personnellement, je voulais te poser la question, la sensation que dans le cinéma, être amateur ou amateur éclairé, c'est très compliqué, et que c'est pas forcément une passion qui, pour le coup, a réussi à toucher des gens comme pour les autres formes d'art. Alors évidemment, on parlait de l'accessibilité, des moyens qui sont assez importants, mais à l'avenir, je pense, comme on pourra parler de l'avenir, je me dis qu'avec des initiatives comme celle-ci, bientôt on pourra faire des journaux vidéo, comme on fait des journaux écrits de manière très cinématographique, et que le cinéma deviendra un moyen d'expression populaire qui sera pour le coup pour tout le monde, qui permettra de s'exprimer sans forcément avoir une idée, une carrière professionnelle derrière, ce qui est aujourd'hui un peu l'alpha et l'oméga dans le 7e art.
Ben j'espère, ouais, parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a ce côté un petit peu élitiste du cinéma, où justement on parle de millions, de centaines de milliers pour faire n'importe quel film. Et c'est vrai qu'il y a des initiatives comme ça, de dire, parce que finalement le cinéma n'a aucune limite, ça, dans l'absolu, si beaucoup de gens s'y mettaient, ils pourraient tout à fait en faire assez facilement, je pense, et faire des choses... super, quoi, partager leurs idées, partager leurs messages, partager les formes qu'ils ont d'expérimenter. Et ça pourrait, dans l'absolu, agrandir les possibilités du cinéma, quoi.
Puis c'est vrai que dans un monde saturé d'images, on a la VOD qui a complètement changé l'économie du cinéma avec les réseaux comme Netflix, ou certains secteurs de l'économie du cinéma et des métiers niches du cinéma sont en tension aujourd'hui, ce qui était inimaginable pour des métiers comme ingénieur du son, parfois monteur son. Aujourd'hui, il y en a qui arrivent à refuser des boulots par les productions assez importantes de toutes ces grandes enseignes. Mais c'est vrai qu'on peut dire également que il y a quelque chose d'important là-dessus, c'est de se dire on arrive également à lire le cinéma, à lire les images. Dans un monde où on est de plus en plus confronté à des images de la pub jusqu'au long métrage, le fait de s'inscrire à une école comme la tienne, c'est aussi un moyen de mieux cerner tout cela. Et je dirais, il y a également aussi, en plus ici, encore quelque chose de citoyen, il y a une nouvelle dimension qui vient s'intégrer, c'est qu'il y a des gens qui vont certainement s'inscrire à l'industrie, qui n'ont pas forcément envie de faire des scénarios ou des films, mais qui ont envie de mieux comprendre le cinéma, tout simplement.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'au début, je pense que quelqu'un qui s'est jamais intéressé au cinéma, c'est vraiment, je le vois ça comme un langage, quoi. C'est quelqu'un qui sait pas lire, même s'il pense qu'il essaye, en fait, il est très loin de la réalité, de tout ce qu'on, tous les outils qu'on a pour raconter quelque chose avec une certaine profondeur, quoi. Et c'est vrai que ouais, ça peut tout à fait permettre aux gens de mieux comprendre ce qu'ils voient, de comprendre le côté artistique des différents départements, de leur intention, exprimé à travers leurs propres outils, leurs propres techniques.
Donc Juliette va inscrire, donc Juliette a 15 enfants, donc elle va tous les inscrire. Moi je vais inscrire ma gamine de 3 ans.
Bah. Mais je suis content, merci beaucoup à toi et à l'équipe de partager ça, ça fait vraiment plaisir.
Bah, en tout cas, un très très grand merci pour cette initiative. Et voilà, vous pouvez y aller, l'industrie. Donc on rappelle les références du site Elliot si on le cherche sur internet, parce qu'il il faut vraiment taper l'industrie.
Ouais, industrie, école de cinéma à 1€ par mois. Ou le site, ouais, c'est industrie avec un E en français, point school, école en anglais.
Voilà, donc vous pouvez pas le louper, on partagera tous sur évidemment nos pages et nos réseaux sociaux. Un grand merci encore Elliot d'avoir été avec nous, Juliette et Thomas ici qui relayaient nos questions, et évidemment on se reverra à l'occasion, on aura un grand plaisir aussi de te revoir pour continuer à prendre des nouvelles de l'industrie, puis de tes propres films également, parce que de temps en temps t'es en tournage, l'air de rien. Donc on rappelle aussi que t'es, comme j'ai été cinéaste, t'as une fiche sur l'IMDB, hein, l'Internet Movie Database, qui est le Graal pour beaucoup de cinéastes, et c'est très bien, et qu'on peut voir aussi certains, je voulais finir aussi là-dessus, on peut voir beaucoup de tes courts-métrages sur Internet également.
Ouais, certains, ceux qui ont fini leur tournée des festivals, ils sont tout à fait sur Internet. L'IMDB, il faudrait que je l'actualise, hein, c'est clair. ouais, merci à vous, c'est super plaisir.
À bientôt en tout cas, okay. Tous nos vœux.
M-A-R-S-E-I-2-L, R-S-E-I-2-L, yo, mystique, hématone, M-S-I-R-A-I, Kenyarkana, Kenyarkana, l'Arabia del Pueblo,
plus le droit de faire marche arrière, alors c'est droit, va jusqu'au bout.
Tous les peuples du monde entier doivent se battre en réalité pour qu'une véritable politique de justice, d'égalité, de paix puisse vraiment régner sur cette terre. Et que nous soyons vraiment unis afin de débarrasser le monde de ces dinosaures, de ces criminels.
Ok.
Plus le droit de faire marche arrière, alors c'est droit de vin jusqu'au bout. Barrière ou pas, nique sa mère, je fais pas de manière, je suis juste à bout. Trop tempère du verre, les détours qui mènent à l'enfer. Mais dans un monde qui tourne pas rond, qui nous a fait naître les nerfs à l'envers. Alors te demande pas pourquoi on est si speed, le monde nous attend pas, nous pose des attentats. Voilà nos rêves qui split, je vois leur règle qui sprint. Pour baïonner nos esprits libres, leur haine qui triche, pour balayer notre équilibre. Man, ça urge, mais pour une résistance, y'a pas fouille. Changer les choses, c'est nous tous comme JMC Ride.
On aura besoin de vous,
de vrais soldats, passez au garde à vous. Chef d'état, gare à vous, viendra le jour, on brûleront vos cages à vous. Y'a plus le temps, nos vies trop offensées, alors c'est droit. Sans point serré, sourcils français, j'balade mon âme en peine. En quarantaine, ma zig, la mandée, des rues de Mars au 7-7 pour un projet mystique.
Des illusions, on va de l'avant, on n'a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre, ou qu'on attend leur foutu père, genre foutu piège. On continue le cœur battant, grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout. Rêve brisé, des illusions, on va de l'avant, on n'a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre, ou qu'on attend leur foutu père, genre foutu piège. On continue le cœur battant, grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout.
Vécu, la plume en guise d'être de recul. Je rêve encore, l'envie d'éclore, même si l'angle sort du côté obscur. Je suis pas d'aide, certes. Le sort m'a eu pour répondre à son appel. J'ai vaincu, cette perte m'a convaincu qu'absence rend plus fort. Pas près de sombrer, de tomber raide, c'est à la sienne que je fais l'effort. Une façon vraie de façonner mon réconfort. On est tous conformes, face au bon gré de l'être suprême, on se forme. Tous tributaires de ses rênes, mais maîtres de nos propres choix, nos propres forces, de nos propres voix. Même si ça prend à toi, relève la tête, trouve-toi. C'est peut-être peu courtois, mais pas un hasard si t'as laissé là. T'as bien ta place quelque part, crois en tes rêves, laisse ta graine. Et n'attends pas de laisser ta mère pour lui dire que tu l'aimes. Jugement dernier pour regretter, dire que t'es plus le même. La vie c'est là, car en vrai t'as le soleil à te donner l'éclat. Et ma donne mystique, Kenya Arcana.
Rêve brisé, des illusions, on va de l'avant, on n'a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre, ou qu'on attend leur foutu père, genre foutu piège. On continue le cœur battant, grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout. Rêve brisé, des illusions, on va de l'avant, on n'a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre, ou qu'on attend leur foutu père, genre foutu piège. On continue le cœur battant, grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout.
Mystique à
lamenté. Je leur ai dit, vous faites chier. Ils ont voulu me couper le tendon d'Achille. J'ai couru comme Kunta Kinte. Dans leur champ de coton, je voulais plus que des croutons. Quand tu vois le rap de merde manger, tu deviens glouton. Hey, je regarde plus dans le rétro. Ouais, gros, trop de même pro. Mais tort, trop, c'est trop. De trois potos, on a monté notre propre label. Liberté artistique, on me dit stick
à la bien.
Juste ralenti, mais pas stoppé. Je reviens en mode guérilla. Qu'est-ce qu'il y a avec plus de drift que Roger Mia? Tu veux que je calme, arrête, s'te plaît. J'ai trop de rage à dégueuler, à gueuler, à beugler. Ils peuvent plus m'aveugler. Allez, reculez, bon donc. Mon micro, je vous le rends dans le cul. Ben ouais, testez pas ici, c'est rap, seum, pas de la para. Mystique, et Madonna, Kenya, Kana.
Répriser des illusions, va de la fin, on a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre ou qu'on attend. Leur foutu perche, leur foutu piège. On continue le cœur battant. Grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout. Répriser des illusions, va de la fin, on a plus le temps. Ils aimeraient tant nous voir à terre ou qu'on attend. Leur foutu perche, leur foutu piège. On continue le cœur battant. Grâce à Dieu, on restera debout et jusqu'au bout.
Dans cette dernière partie, on découvre une comédie musicale urbaine sur la naissance du rap hexagonal. En compagnie de Kamel Salé et de Emma Donne, on va présenter Rapsody, ce projet qui est une chronique sur l'âge d'or du hip-hop français pendant les années 80-90, des périodes d'or pour le hip-hop français, mais aussi sur l'importance de toute cette culture dans le façonnement d'une génération et évidemment son arrivée au sein de la pop culture française. On en parle avec ses deux co-auteurs, Kamel Salé, qui est réalisateur, qui a été notamment le réalisateur des clips du groupe IAM et de Comme un aimant, un très très grand film sur la ville de Marseille qu'on avait déjà évoqué dans l'émission, et Emma Donne, artiste, comédienne, rappeuse dont on vient d'écouter un des morceaux. On les retrouve tout de suite, ils étaient en direct de Marseille directement quand j'ai pu justement les avoir en interview, et c'est très intéressant.
Ok, alors c'est un projet, on l'a pas fait exprès. On a mis en place ce projet il y a quelques mois, peut-être un peu plus même, hein.
Oui.
Ouais, c'est presque un an, un peu plus, hein. Et c'est Akhenaton qui m'a dit, mais c'est les 50 ans du hip-hop. Dit, ah ben voilà, on y est alors. Et j'en ai, on en a parlé avec Emma, on s'est dit, mais oui, on s'en est fait, bien sûr. Et donc, on s'est retrouvé, c'est tombé pile poil.
Alors Rapsody, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un projet qui est multiplateforme, ce qui est pas forcément commun dans ce que tu as pu faire, ou même ce que Emma a pu faire auparavant. Et ce qui est très intéressant vis-à-vis du hip-hop, c'est qu'il y a une vraie, il y a ce projet entre musique écrit et cinéma qui est très complémentaire et qui montre un progrès dans tout ce qui a été fait sur le hip-hop. Parce que c'est vrai que moi, une des questions que j'avais en tête, c'est que depuis 50 ans, énormément de choses ont été faites. Comment on arrive encore à apporter une nouvelle pierre à l'édifice, notamment avec ton expérience dans le clip et dans le cinéma? C'est vrai qu'on imagine le travail de recherche qui a été fait.
Mais en fait, c'est le résumé de tout ça, de toute cette expérience. L'expérience, tu m'entends, hein,
ouais.
L'expérience new-yorkaise avec IAM, les clips, le documentaire, le long-métrage, le second. C'est un peu l'expérience, c'est la maturité de toute cette expérience-là fait qu'on a tout attelé avec Emma à ce projet d'envergure. Il y a un long-métrage, un album de 14 titres, un featuring avec Raph Larage, et le show, le spectacle, le 24-25 octobre au Stylo. Donc c'est une grosse salle.
Alors on a eu le plaisir d'en parler avec toi, Kamel, justement de Marseille, parce que c'est vrai que en France, des villes qui se prêtent à l'art urbain, évidemment il y en a énormément, mais évidemment tête de gondole on a Paris et Marseille, et Marseille qui est une porte d'entrée une des historiques du territoire français, et peut-être la ville la plus connectée, alors je dirais, à cet art qui est très important, cet art urbain. On a eu l'occasion d'en parler justement, et c'est aussi un moyen de se réapproprier des territoires qui sont les nôtres dans des sociétés urbanisées. Il y a quelque chose de très important dans votre démarche là, pour toucher tous les publics.
On s'est dit qu'en regardant derrière, on s'est dit il y a assez de choses à raconter aux enfants qui sont les nôtres. On commence à avoir des enfants maintenant et on voit qu'il y a une génération un peu déconnectée à cause des réseaux sociaux. Et on s'est dit que c'est génial de pouvoir restituer ces archives et ce background, toute cette expérience-là, à une génération de gens qui sont déconnectés avec les réseaux sociaux. Ça va tellement vite aujourd'hui, c'est beaucoup vite. Quoi. On parle d'un âge d'or, mais c'est un âge d'or que nous on a connu, mais que c'est des dinosaures. On a l'impression que c'est l'époque de Néandertal. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, totalement. Je vois les références que vous mettez dans votre dossier de présentation, tous les deux, dans le dossier de presse, qui sont très intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de références anglo-saxonnes, et c'est vrai que c'est tout à fait juste. Moi, j'en pensais également à, on peut aller jusqu'à West Side Story, avec le projet de Rhapsody, où on a vraiment l'idée de prendre possession de la ville et d'en faire un territoire à soi, et de le faire évidemment par l'art, par la danse également, parce que c'est une dimension aussi importante de votre projet, c'est qu'il y a de la musique, il y a de l'image, mais il y a aussi la réappropriation des corps.
West Side Story, c'est la référence par excellence. C'est une comédie musicale urbaine avec du chant, de la danse et un récit tragicomique. Mais vraiment, parce qu'on parle du fléau de la toxicomanie de l'héroïne dans les années 80, et le récit de Moses et de Ornella, qui est un des personnages centrales aussi, qui se démêle dans ce milieu interlope et autres, Marseille, c'est du tout des fins des années 80, et le hip-hop vient comme ça un peu un exutoire, permettre de donner tous à ces personnages-là qui sont immergés par toute cette violence, par toute la dimension dont on vient d'évoquer, sociale et dure et sombre. Et c'est le hip-hop qui vient en permettre à ces personnages-là de sortir la tête de l'eau. On reprend les films américains, c'est vrai, mais pour en faire les nôtres, on s'inspire de ça, parce que pour moi, enfin, West Side Story, la version Bernstein, c'est un chef-d'œuvre. Mais comment rien, aucune comédie musicale urbaine n'a été envisagée depuis 50 ans avec Pierre. Et on s'est dit, mais on tient un truc de fou. Aux États-Unis, il n'y a pas une comédie musicale, à part le Spielberg et le Bernstein des années 70. Et on se dit, mais en France et en Europe, il n'y a pas d'équivalent. Et on l'a pas fait comme ça, mais quand on l'a fait, on s'est dit, mais c'est fou, quoi. Et là, on sentait qu'on tenait quelque chose. Et puis c'est ça la force du projet. Comme je dis, il y a une singularité.
En termes de financement, on vous voit que dans le dossier, la ville de Marseille est partenaire du projet. C'est très important également que vous aviez des pouvoirs publics qui vous suivent et qui cautionnent évidemment cette démarche que vous avez. Parce que comme vous le disiez, il y a vraiment un besoin, une demande d'un projet comme celui-ci qui vient réinventer les codes et enrichir les codes du hip-hop. Et c'est vrai que j'imagine à quel point déjà dans les démarches pour convaincre des interlocuteurs de faire ça en France, ça a dû être pas facile en tout cas au début.
Ça l'était pas. Parce qu'au départ, on était un petit peu seul et très seul. Et si tu veux, à mi-chemin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de salle pour les représentations. On a décalé les représentations à une date ultérieure et on a envisagé de faire le long métrage. Et c'est après que la ville est venue, quand ils ont vendu le projet, et ils nous ont dit qu'on ne vous lâche pas pour la partie spectacle, du moins. Et ils nous tiennent mais de fou, quoi. La ville de Marseille, voilà. Donc je vais laisser Macron conclure.
Donc c'est sûr que l'événement il s'inscrit déjà dans cette année 2023 et par rapport aussi au parcours Kamel avec comme un aimant, etc. L'arrivée du hip-hop à Marseille en France, forcément Marseille a joué un énorme rôle à la fin des années 80 dans la naissance du hip-hop, donc forcément ça met tout ça en arrière. Et il y a un côté aussi social. On est allé dans des collèges, etc., pour présenter le premier clip. C'est tout ce côté-là aussi qui est important. C'est aussi la pédagogie et du coup, comme disait Kamel, de permettre aux jeunes de connaître en fait l'histoire du hip-hop. Mmh. Parce que c'est une génération qui va moins aller chercher, qui va moins lire, qui va moins se renseigner, etc.
On peut parler d'éducation populaire. Ouais. C'est un terme qui revient, ouais. Mmh.
Et c'est ce côté-là aussi que la ville de Marseille a envie de mettre en lumière et essayer de que ça soit une passerelle entre les quartiers populaires et des lieux tacles comme le Silo, par exemple.
En 2000, quand on est sorti, il y avait des gens de France Culture qui me disaient « Oui, votre team, c'est la culture urbaine ». Et si tu veux, moi, je n'étais pas très en phase avec les termes. Et j'ai dit « Ouais, non, je n'aime pas trop le terme ». Mais en réalité, elle avait raison. Après coup, j'ai dit, il y avait un petit échange un peu comme ça, où j'ai dit non, je ne veux pas dire culture urbaine, et il me dit, mais si, ça vient de la rue. Moi, j'avais fait ça de façon un peu péjoratif pour moi, c'est mal connoté. Et en réalité, c'est pas faux, tu parles de patrimoine, et effectivement, le hip-hop a fait qu'aujourd'hui, c'est une musique, un art et une discipline qui est entrée dans le patrimoine culturel et qui fait que de comme élément, effectivement, il y a eu comme élément parce qu'il y a eu le hip-hop avant. Et les financeurs se sont dit, tiens, ça vient de la culture urbaine. Moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Et aujourd'hui, effectivement, grâce à ça, il y a de la pub, il y a de la diversité dans la pub, ou alors on n'en voyait pas avant. Mm-hmm. Mais moins dans le cliché, mais plus accepté comme une grande diversité, comme une richesse d'un pays que la France. Mais c'est arrivé par la petite porte. Parce que nous, on est dedans, on s'en rendait pas compte, on avait le nez collé dedans, mais je pense que les sociologues et autres avaient très souvent anticipé ça.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie? Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres, sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche. Pourquoi pour lui c'est l'équitation? Pour moi les bastons, pour lui la coque, pour moi les flics en faction. Je dois me débrouiller pour manger certains soirs. Pourquoi lui se gave de saumon sur de caviar, certains naissent dans les choux, d'autres dans la merde. Pourquoi ça pue autour de moi? Quoi? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi chez lui c'était Noël ensoleillé? Pourquoi chez moi le rêve est évincé par une réalité glacée? Et lui a droit à des études poussées. Pourquoi j'ai pas assez d'argent pour acheter leurs livres et leurs cahiers? Pourquoi j'ai dû stopper les cours? Pourquoi lui n'avait pas de frère à nourrir? Pourquoi j'ai dealé chaque jour? Pourquoi comme moi je plonge, j'oublie pas sa thèse? Pourquoi les caches d'acier, les caches dorées agissent à leur aise? Son astre brillait plus que le mien sous la grande toile. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile, même étoile.
La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin sans les cartes. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Je peux rien faire. Je peux rien faire. Spectateur du désespoir. Je peux rien faire. Je peux rien faire, spectateur du désespoir.
Comme Issa, pourquoi je suis pas né la bonne étoile? Veillant sur moi, couloir plein de doigts, cracha, cha cha, de franc. Compète des tapettes devant, supporter de grandir sans un franc, c'est trop décevant. Simplement en culotte courte, pas faire l'appel mécanique plate avec des pots de yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne. Et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, chiant, à tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Témoin de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais virer des tartes aux petites avec les couettes. Pâle de peur devant mon père, ma soeur, porter le voile. Je revois à l'école les gosses qui la croient ce poil. C'est rien, Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son boulet, sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque. J'exprime mon avis, même si tout le monde s'en fiche. Je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche.
La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Mon Dieu, pourquoi ne puis-je vivre comme n'importe quel être humain? Pourquoi mon destin est-il de ne pouvoir cesser de battre?
Je peux rien faire, faire. Je peux rien faire, faire. Je peux rien faire, faire. Je peux rien faire, spectateur du désespoir.
La vie de rêve. La vie de rêve.
J'avais une question aussi pour vous sur l'écriture du projet. Comme c'est un projet multiplateforme, j'avais vraiment des questions sur l'écriture du projet. Donc Kamel, tu viens avec ton aspect cinématographique. Emma, tu as été comédienne et évidemment le hip-hop, la danse et l'écriture qui est importante. Comment vous arrivez à vous coordonner?
Ça commence par l'écriture des chansons à la base. Où voilà, Kamel avait écrit des chansons, j'ai commencé à les interpréter et très rapidement, je crois au bout du deuxième titre quand j'ai écrit. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de potentiel, que les chansons étaient fortes, étaient puissantes, mais qu'elles avaient autre chose qu'un simple album. Il y avait autre chose, une dimension, c'était très imagé, etc. Donc c'était autre chose. Et donc c'est là où Kamel a l'idée de la comédie musicale et d'intégrer en fait ces chansons-là dans un spectacle, film, dans une comédie musicale.
Pour ma part, si je parle de moi, mon écriture, elle est très cinéma. Tout le temps, mais je fais autre chose, mais j'aime bien expérimenter le cinéma. Et d'autres l'ont fait. D'autres réalisateurs américains, comme Spike Lee, quand ils réalisent des films, des clips, c'est le cinéma aussi. Donc, je pense qu'on est très, très influencé par moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a fortement influencé. En dehors de Scorsese, de Cassavetes et de grands, je dirais pour la génération qui nous est proche, pour les plus âgés, mais je dirais Spike Lee par excellence. La première fois où je vois The Devising dans un cinéma indépendant à Marseille, là, il y avait une trentaine de personnes. Moi, je prends une claque. Et là, on est dans le hip-hop, mais on n'est plus que dans le hip-hop. On est dans le cinéma, mais on est dans la sociologie, on est dans l'art. Mais il y a des dimensions dans ce film qui sont, mais c'est juste énorme. Et ça, moi, ça me parle. Et comme élément qui vient après, je pense qu'on se nourrit de ça. Et puis, pour les clips aussi, il y a toujours un peu des mentors comme ça qui nous, sans qu'on s'en rende compte après, on s'est nourri du fait de ça. Et puis, c'est le mentor par excellence.
Dans les dernières minutes, moi, je voulais vraiment vous poser une dernière question parce que c'est vrai que c'est un projet vraiment très très important pour tout ce qu'on a dit, son aspect hybride et son aspect social. Quand on a commencé l'entretien, vous étiez dans la rue puisque vous êtes en train de tourner. Moi, je voulais vous demander justement parce qu'il y a quelque chose aussi que je trouve très 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 important dans le cinéma de post-Covid. On sait que les salles de cinéma veulent ramener des gens dans les salles, ramener une vraie plus-value à regarder du cinéma. Là, le fait de tourner, d'être connecté directement aux gens, aux espaces où vous allez, ce cinéma qui justement est confronté à son objet et également évidemment pour l'aspect musical de votre projet, on retrouve quelque chose, je dirais, de fondamental dans toute forme artistique, c'est-à-dire qu'on est tout de suite connecté à ceux à qui on veut parler.
On est en contact avec la population parce qu'on tourne dans toutes les rues, les gens viennent, nous parlent, hier on a parlé avec tout un tas de gens qui s'y intéressent. Et là, on est sur un tournage très urbain. Plus que ça, on ne peut pas faire. On a les bruits, on a le bruit, la ville, on a la danse, on a le jeu pur. Et du coup, on se dit que c'est un film fragile parce qu'on n'a pas de moyens, mais la force du film, elle est puisée dans ce que la ville peut nous donner de bon et de mauvais. Quand il y a une petite accalmie, on se dit, c'est bon, on peut tourner. On fait nos répliques, puis le bruit revient et on se dit, c'est un film qui va être très particulier, qui est très écrit, mais à la fois très, pas improvisé, mais très urbain dans sa manière d'être fait, avec peu de moyens.
Dans le fond, tout est bien écrit, mais dans la forme, ça lâche chaque jour.
C'est ça.
En fonction de la ville, des déménagements, des fêtes, on a tout eu, quoi.
Mais c'est très bien, je dirais, parce que ça fait une sorte de, je dirais, de cadavre exquis, où chacun ramène sa pierre à l'édifice, et c'est vrai que pour les villes foisonnantes, et bon, on sait que Marseille n'a aucune leçon à prendre de qui que ce soit en France aujourd'hui, au bon sens du terme, évidemment, on sait que c'est vraiment un art où chacun ramène sa pierre à l'édifice. Moi, je trouve qu'au niveau de la forme, il y a quelque chose de très intéressant.
Ouais, on est dans une forme de surréalisme, parce qu'on apporte quelque chose de différent, bien ou pas, d'autres aimeront. Non. Il me semble qu'on a quelque chose d'assez... Ouais, on a quelque chose du cadavreski.
Oui.
Parce que j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'image après. S'il y a du Arthur Rimbaud, s'il y a du André Breton, s'il y a du Paul Éluard, il y a tout ça dans le cinéma, c'est génial.
Non, mais
du cinéma américain.
Oui, exactement. Non, mais c'est vrai que là, on entend les références, évidemment, mais c'est vrai aussi que au-delà de ça, et ce qui est très important, mais au-delà de ça, on voit vraiment que la démarche que vous avez et le terreau que vous avez choisi, ça donne quelque chose qu'on a en tout cas très très envie de voir, surtout avec cette démarche vraiment d'approfondir et d'enrichir, je dirais, cet univers du hip-hop pour ses 50 ans, et en tout cas qui a un très bel avenir devant lui avec des initiatives comme la vôtre. Un grand grand merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, parce que c'est vrai que là vous nous avez dit que vous êtes en plein tournage, donc il y a beaucoup de boulot. Là, il naît à Marseille, mais évidemment tout l'intérêt, c'est qu'il traverse toute la France et qu'il apporte toutes ces leçons là qui sont très 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 importantes. On en a parlé, hein, il y a vraiment quelque chose de très important là dedans
merci.
On partage et on en parle.
Il y a deux dates importantes. Alors j'ai oublié, le vendredi 21 juillet, normalement la première version de Rhapsody, le cinéma, le film qu'on est en train de tourner, va être diffusée au 8e en plein air avec avant maman, un show musical de 3 quarts d'heure interprété par Emma, et il y aura Faf Larage, des danseurs, des musiciens, piano et autres. Et ensuite, après, à 22h, quand il fait nuit, la projection exceptionnelle, parce que ça sera la première et on n'en fera pas d'autres après pour le moment, du long métrage Rhapsody à Marseille au 8e.
Merci à vous, à bientôt.
À très vite, mon mari.
Ça marche. À bientôt. À bientôt.